Chapitre 2. Voici comment les choses se passaient chaque matin dans la maison. Flore se levait la première. Elle faisait le déjeuner, balayait les chambres du rez-de-chaussée, le corridor, puis elle montait chez Zoé pour la coiffer. Depuis que l'enfant, toute petite, mignonne et effrayée comme un petit oiseau, était tombée à 5 ans dans un ménage de vieillards, il avait été entendu que Flore s'occuperait de son corps et Mademoiselle Célanie de son esprit. La vieille bonne n'avait pas toujours respecté cette limitation stricte. Elle faisait de fréquentes incursions dans le domaine de Mademoiselle Célanie, tout en ne souffrant pas qu'on s'ingérât dans le sien. En coiffant Zoé, elle lui inculquait ses maximes. Zoé eut bien préféré se coiffer elle-même. Quant aux maximes, elle la jetait souvent dans de singulières perplexités. Flore ouvrit la porte. Zoé, debout devant sa petite glace, les cheveux défaits, une brosse à la main, se retourna vivement et rougit. « Qu'est-ce que tu fais donc là ? » cria la vieille bonne. « J'essayais d'arranger mes cheveux. Vous me faites toujours la même coiffure depuis des années. Il faudrait apprendre à se démêler d'abord. Dans quel état tu m'as mis cette chevelure ? Plus de raies de milieu, plus de raies de côté, rien. Allons, assieds-toi et passe-moi la brosse. » Zoé s'assit docilement, mais avec un soupir. Qu'elle était drôle et jolie, dans sa camisole de basin à la vieille mode, ornée d'un grand col rond, d'où s'élançait son cou long et frêle, comme la tige d'une fleur. Ses manches larges, à la chinoise, laissaient passer de jolis bras fluets, dont le transparent épiderme était si sensitif qu'il rougissait comme les joues, comme le cou, à la moindre émotion. Toute petite, Zoé divertissait son entourage par cette étonnante faculté de rougir jusqu'au bout des doigts. Flore l'amenait devant son grand-père, parfois même devant des étrangers, dans sa petite robe décolletée à manches courtes. « Regardez-moi cet enfant, » disait-elle, faisant un signe d'intelligence aux personnes qui se trouvaient là. Alors, de confusion d'être regardée, d'horreur de savoir qu'elle allait rougir, Zoé sentait comme une vague chaude passer sur elle, sur ses petits bras nus, sur ses petites épaules rondes, qui devenaient roses, jusque sous la ruche de dentelle dont on les encadrait. Un jour enfin, elle s'était révoltée, elle avait eu une violente crise de larmes, et ses exhibitions avaient cessé. Sous sa chevelure brune, qui pendait en ondes bouffantes de tous côtés, contraste singulier avec sa peau fine de blonde, Zoé avait une petite figure grosse comme le poing, des sourcils noirs très fins comme tracés au pinceau qui se fronçaient aisément. On remarquait peu ses yeux qu'elle baissait presque toujours, soit par timidité, soit indifférence de voir ce qui l'entourait. « Si tu veux, » dit la vieille bonne en se radoucissant, « je te ferai aujourd'hui des nattes à huit ou à la Marie-Louise ou à l'épi pour changer. » « Non, non, merci. Je déteste ces larges nattes qui ressemblent à de la vannerie. »« Comme tu voudras, » dit Flore un peu vexée. Elle jardinait soigneusement cette abondante chevelure en petites plates-bandes bien lisses, séparées par de petites raies bien droites. Quand elle eut brossé les bandeaux de devant, elle en fit deux grosses nattes qui passaient devant les oreilles, encadrant les joues, et qui s'enroulaient avec les nattes de derrière autour d'un petit peigne d'écaille. C'était ainsi que la mère de Flore coiffait sa fille en 1840. Sous ses bandeaux, la figure de Zoé avait une grâce vieillotte, un petit air bien sage que ses yeux baissés ne démentaient pas. À l'école, on l'avait beaucoup taquinée au sujet de ses nattes, mais elle aimait à croire que, depuis ce temps, la mode en était peut-être revenue. Flore, entre autres maximes, lui avait dit qu'il ne faut jamais abandonner une mode qui vous sied, vu qu'on est sûr qu'elle reviendra, et Zoé en croyait Flore, n'ayant pas d'autre oracle à sa portée. « Les Voumars sont dans la jubilation ce matin, » dit Flore, qui aimait à causer tout en maniant le peigne. « Leur fils est de retour. C'est bien lui qui arrivait hier soir quand M. Clovis a entendu la voiture. Les petits cabrioles autour de leur grand frère, il faut voir. » « Mais c'est un fanlaire que ce garçon-là. Jamais de ma vie, de mes jours, je n'ai vu pareil ébrédi. Il renversera la maison si on le laisse faire. Il paraît qu'hier soir, à ce que m'a dit sa maman, il les prenait tous les uns après les autres à la brasser et puis qu'il faisait voltiger les petits dans l'air. Bref, un carnage incroyable. » Zoé se dit que dans les vers de Corneille que sa tante Célanie lui faisait lire, le mot « carnage » n'était jamais employé dans ce sens-là. Rien ne ressemblait moins à l'idée qu'elle se faisait d'un carnage que la scène de joyeux retour, furtivement épiée la veille par ses yeux remplis de larmes. Mais Flore n'y regardait pas de très près dans le choix de ses mots. En règle générale, il semblait même qu'elle préférât les employer à contresens quand elle n'en inventait pas de tout neuf qui n'avait aucun sens précis. Après leur déjeuner, les deux vieillards venaient ordinairement s'asseoir côte à côte sur un banc adossé à la muraille près de la porte. Mademoiselle Célanie restait dans sa chambre avec Zoé qu'elle gardait auprès d'elle jusqu'à midi, la faisant lire et travailler à l'aiguille. C'étaient des vers classiques, c'étaient des lettres de la sentencieuse Madame de Lambert, des pages de Buffon, quelques chapitres de Chateaubriand soigneusement choisis et d'interminables tapisseries et de petits carrés de fine toile sur lesquels elle exécutait de merveilleux points à jour qui remplissaient les matinées de Zoé. Avec ses lunettes, Mademoiselle Célanie y voyait assez pour inspecter de quart d'heure en quart d'heure l'ouvrage de sa petite nièce. Sans lunettes, elle surveillait son maintien et ne lui permettait ni de s'appuyer une minute au dossier de sa chaise, ni de croiser les pieds, ni de se pencher sur sa broderie. Elle avait fait de Zoé un petit modèle de tenue. Dans la chambre, où flottait une indéfinissable odeur de vieillerie, les yeux ne rencontraient pas de couleur, rien que des nuances atténuées, fatiguées, le jaune éteint des rideaux de damas, les vieux roses, les vieux verts fanés, des tableaux en tapisserie ou en laine hachée, sous verre, le blanc poussiéreux des petites corbeilles en perles dans lesquelles on ne mettait jamais rien. Et, par-ci, par-là, des bibelots surannés, un peu ridicules, dont personne ne comprenait plus l'agrément ni l'utilité. À la paroi du fond, trois ou quatre portraits en silhouette que Mademoiselle Célanie appelait « Madame la Comtesse »,« Monsieur le conseiller privé »,« Le cher petit Wolfgang ». Sur une étagère, les livres qui servaient aux lectures du matin, tous solidement reliés en carton, avec des dos en parchemin. La plupart avaient certains feuillets collés ensemble par des pains à cacheter, trois pains dans la marge, deux en haut, deux en bas, de telle sorte qu'il était impossible de glisser même un coup d'œil sur ces pages condamnées à une obscurité éternelle. Zoé avait acquis une remarquable aisance à sauter du recto d'un feuillet au verso du feuillet suivant sans que rien dans son ton indiquât une lacune de deux pages. « Mais cela n'a pas de sens et la rime n'y est pas », disait Mademoiselle Célanie qui écoutait toujours avec beaucoup d'attention. « C'est qu'il y a des pains, ma tante !» « Ah, s'il y a des pains, continue alors !» Et Zoé reprenait, avec une belle indifférence, quelques tirades dont le commencement se trouvait derrière la page, avec le nom du sage confident ou de la princesse passionnée qui prononçait ses alexandrins. « Quel personnage parle ici ?» demandait Mademoiselle Célanie. « Mais je ne le sais pas, ma tante, puisque c'est collé !» D'après le sens, il est facile de deviner que ce doit être Hermione. Zoé haussait imperceptiblement les épaules et se hâtait de poursuivre. Ce que ça lui était égal, que ce fût Hermione ou quelqu'un d'autre, les tragédies classiques ne lui disaient rien. Ce qu'elle aimait, ce qui mettait du bonheur dans son existence, c'était de vieux petits volumes grands comme la main, mal imprimés sur du papier d'épicier, mal brochés, patiemment recousus et recollés, qui remplissaient une armoire dans la chambre du cousin Clovis. Il y avait là les trois mousquetaires, le collier de la reine, la tulipe noire, Monte-Cristo, tous bondûment enfin, avec sa fantasmagorie puérile et puissante. À l'heure de la sieste, car chacun faisait sa sieste et la faisait très longue dans cette maisonnée de vieillards, Zoé se glissait doucement dans la chambre du cousin, ouvrait sans bruit l'armoire et fourrait prestement dans sa poche deux ou trois des bien-aimés petits bouquins à couverture de papier grisâtre. M. Clovis, enfoncé dans sa bergère, ouvrait à demi les yeux et faisait à Zoé un petit signe de complicité bienveillante. Alors, elle se sauvait bien vite, elle descendait l'escalier sur la pointe des pieds, elle passait comme une petite souris devant la porte ouverte de la cuisine où Flore somnolait d'un œil seulement. S'il pleuvait, elle avait une cachette dans la grange. S'il faisait beau, elle allait s'asseoir sous un arbre au bord du pré et pour la centième fois, elle se lançait en croupe de l'impeccable Athos, du séduisant Aramis ou de ce bon géant de Porthos dans d'incroyables aventures. Ah, les pauvres pains à cacheter de Mademoiselle Célanie! Mais l'effet qu'avait produit sur l'esprit de Zoé cette lecture assidue n'était point celui qu'on en eût attendu. Soit qu'une dose de bon sens plus que la moyenne la préserva de la fermentation romanesque, soit parce qu'il n'y avait rien de jeune autour d'elle et que sa propre jeunesse dormait encore, Zoé était bizarrement convaincue que le monde des livres est un monde absolument chimérique et que rien de ce qui s'y passe n'arrive jamais dans la vie réelle. Dans ses chers livres, qu'elle n'aimait pas moins pour n'y pas croire, on rencontrait beaucoup plus de reines, de princesses et autres grandes dames que de petites bourgeoises. On y donnait à tout bout de champ de grands coups d'épée, on s'y aimait avec une crânerie mêlée de lyrisme, on s'y mariait fort peu. Or Zoé savait que dans la vie de tous les jours, on se marie. Quant à s'aimer, non, elle ne croyait pas que cela arrivât aux personnes réelles. Il en était du bel amour comme du reste, comme des anneaux de diamants d'un prix incalculable, qui sont dans la réalité de petites bagues en cornaline. Zoé avait justement reçu de Mademoiselle Célanie une petite bague en cornaline, comme des héroïques coups d'épée que distribuent galamment des mousquetaires invincibles et qui sont représentés dans le journal du soir par de vulgaires bagarres à coups de poing. Tout cela, c'était une traduction en style noble de la prosaïque réalité et l'amour était une métamorphose dorée de ce que Flore appelait tout platement se mettre en ménage. Zoé, qui, à part les classiques qu'elle lisait à haute voix sans s'écouter, ne connaissait qu'un seul auteur, était parfaitement convaincue que M. Alexandre Dumas avait inventé l'amour pour en mettre dans ses livres. Mademoiselle Célanie avait redouté de voir grandir son élève, mais ne lui trouvant à 18 ans aucune des petites manies sentimentales dont sont atteintes d'autres jeunes filles, elle s'applaudissait du succès de cette éducation. Le grand-père la tenait toujours pour une fillette. Seul le cousin Clovis observait Zoé et s'inquiétait. C'est d'elle qu'il s'entretenait avec le grand-père, assis à côté de lui sur le banc. Le vieux Brutus Romanel avait les deux mains croisées sur la paume aplatie de sa canne et le menton appuyé sur ses mains. Il regardait fixement la grille du jardin, une belle grille en fer ouvragé que surmontait son chiffre et qui se dressait depuis 48 ans entre deux poteaux couronnés chacun d'une boule de granit. Derrière la grille, ses yeux affaiblis ne distinguaient qu'un vague fond de verdure, mais il connaissait par cœur le contour géométrique des plates-bandes entourées de buis et la place invariable des pieds d'alouette, des passeroses, des touffes de pivoine. Il savait que les dahlias croissaient le long du mur à gauche, les groseilles à droite. Il aimait à faire des remarques sur telle ou telle plante pour donner aux autres et un peu à lui-même l'illusion qu'il y voyait très clair. « Sais-tu qu'elle est dans ses 18 ans ?» dit le cousin Clovis, balançant son pied selon sa coutume. « Qui, elle ?» fit le grand-père. « Tu as une façon décousue de parler. Tu baisses, Clovis, tu baisses décidément. » « À qui le dis-tu? Je m'en aperçois tous les jours, » répondit M. Clovis avec philosophie. « C'est de ta petite fille, de Zoé, que je parlais. »« Marrière petite fille, tu veux dire. Fille d'Ernest, fils de Louis. Louis était un bel homme, t'en souviens-tu? Il aurait pu devenir vieux sans cette pleurésie. Moi, j'ai eu deux fois la pleurésie et me voilà sain comme l'œil avec toutes mes facultés, mémoire et tout. » Je n'ai jamais rien compris à ces jeunes gens qui meurent comme des mouches à la moindre petite maladie. Je crois qu'elle s'ennuie, reprit le cousin Clovis, suivant son idée et toujours balançant sa pantoufle. Ah, tu crois qu'elle s'ennuie? Fit le grand-père après un long silence. Pauvre petiote, il est vrai que Célanine est guère divertissante. Pas de conversation, un tas de petites maraudes qu'elle a rapportées de l'étranger. Je dirai à Zoé de me faire la lecture, ça la distraira. Il lui faudrait peut-être autre chose, ou bien un petit séjour chez des parents, mais elle ne voudra pas, elle est sauvage comme un chat de grange, ou bien la société d'une jeune personne de son âge. Une jeune personne, répéta le grand-père d'un ton mécontent, une fillette, un bout de fillette qui grandit encore. Oui, c'est cela. Mettez-lui des idées en tête et nous en aurons de l'agrément avec votre jeune personne. J'avais idée d'écrire à ma nièce Fanny. Elle a une grande fille, à ce qu'on dit, elle nous l'enverra volontiers pour quelque temps. Zoé sera contente de faire une amie. Je trouve la petite trop raisonnable, trop tranquille, elle a trop les manières de sa tante. Célanie a de très bonnes manières, des manières admirables, mais je ne sais, j'imagine que la mode a changé pour cela, comme pour autre chose. J'ai du chagrin de penser que l'enfant est peut-être ridicule. Pauvre petite, nous sommes trop vieux pour elle, Brutus. Elle n'a pas l'air de se douter qu'il y ait dans le monde des gens de moins de 60 ans, des jeunes gens enfin. Et sais-tu ce qui arrivera ? Le grand-père, à chaque pause, à chaque phrase lentement rythmée par le balancement de la pantoufle verte, hochait la tête et faisait entendre un son inarticulé, car la pomme de la canne lui serrait le menton, de façon à l'empêcher d'ouvrir la bouche. Il arrivera qu'elle perdra sa jeunesse, la mignonne, la pauvre mignonne. Nous sommes tous là à lui faire croire que le grand bonheur, c'est d'arriver à 80 ans. Et elle le croit. Plus tard, elle pleurera toutes les larmes de ses yeux, car il n'y a qu'une jeunesse, Brutus. Il n'y a qu'une jeunesse. Le grand-père ne l'écoutait plus. Il repensait à François Dumont, à ce plateau d'argent, à cette sérénade. Il y avait pensé dans la nuit et le matin au petit jour, éveillé dans son lit, tandis que les coqs qu'il n'entendait pas sonnaient des fanfares, il avait revu toutes sortes de choses lointaines, effacées, mortes, qu'il n'avait pas évoquées depuis 20 ans et plus. Il s'était souvenu que son père lui avait dit un jour, ce devait être en 1830, oui, puisqu'il venait de perdre la pauvre Célestine, sa première femme. « Mon pauvre garçon, j'ai bien peur que Dieu ne te fasse la grâce d'enterrer 2 ou 3 épouses, car tu tiens de ton oncle Siméon, tu es du bois dont on fait les centenaires. »« De bon bois, oui, de bon bois. » Le docteur l'avait-il assez tâté et tapoté et ausculté à cette chute qu'il avait faite l'année de la guerre, ce certain matin qu'il avait voulu ouvrir une lucarne pour mieux entendre le canon qui tonnait du côté de Belfort. Bon partout, solide comme un chêne, rien au poumon, le cœur sain comme une cloche, les bronches en parfait état. Vous dites que vous avez 78 ans, c'est incroyable. Oui, voilà ce qu'avait dit le docteur. Il y avait 20 ans de cela, mais on ne s'use guère quand on se repose, qu'on se ménage, quand on a une vie régulière et qu'on ne fume pas. François Dumont, lui, fumait comme un Turc. C'est ce qui lui avait engourdi les facultés. La jeunesse, oui, assurément, Clovis, la jeunesse est une belle chose. Mais songeait le vieillard, se renfonçant dans ses pensées et courbant toujours plus sa tête blanche sur la canne, si bien que l'extrémité de sa longue barbe effleurait presque ses genoux. Mais c'est une belle chose aussi que d'arriver à mon âge. 20 ans, la belle affaire, chacun a eu ses 20 ans et que de sottises on a faites alors. François Dumont ne saurait durer encore longtemps. Ses émotions sont à bas. Après lui, c'est moi le plus vieux du pays et je me porte comme un charme, je suis gai. Fais comme tu voudras, Clovis, fais comme tu voudras, dit-il car le cousin parlait toujours. Une ombre s'allongea devant lui sur le gravier blanc de l'allée. Il leva lentement la tête et vit un jeune homme qui se tenait là, debout, son chapeau de paille à la main. « Ah, c'est toi, Samuel !» fit le cousin Clovis, dont la mémoire était plus prompte, sinon aussi tenace, que celle du grand-père. « Ah, c'est toi, Samuel !» répéta aussitôt l'autre vieillard en se redressant tout à fait et en rassemblant dans sa main pâle sa longue barbe que la pomme de la canne avait dérangée. « Bonjour, monsieur Romanel. Bonjour, monsieur Clovis. Vous vous portez toujours bien ?»« Très bien, mon garçon. Mieux que les jeunes !» répondait le grand-père de sa voix faible et cassée. « Te voilà de retour. As-tu appris beaucoup de choses dans le pays de Gex ?» Il dit cela très vite, ne voulant pas se laisser devancer une seconde fois par M. Clovis. « Ce que j'ai appris là-bas ne me servira pas à grand-chose. La culture est trop différente. Mais cela vous ouvre l'esprit pourtant, et puis j'étais utile à mon oncle. » « N'a-t-il pas vendu sa grande métairie ?» demanda M. Clovis. « Je crois l'avoir entendu dire à ton père. »« Oui, ils viennent de se retirer, lui et ma tante, dans un petit bout de domaine, pour y vivre tranquillement. Alors ça m'a rendu libre de revenir en Suisse et de faire mon service militaire, qui me tenait joliment à cœur. Et croiriez-vous qu'ils m'ont porté pour les galons ? s'écria le jeune homme de sa voix sonore et joyeuse, qui avait peine à se maintenir dans le ton modéré de la conversation.
« Grand-père, le dîner est prêt !» dit Zoé en paraissant sur le seuil de la porte.
Quand elle aperçut Samuel, elle fit un mouvement comme pour reculer bien vite dans la pénombre du corridor. « Arrive ici, petiote !» dit le grand-père. Elle obéit, mais en prenant son drôle de petit air réservé et sans jeter un seul regard à Samuel. « J'espère que vous vous portez bien, mademoiselle, » dit le jeune homme, devenant subitement aussi sérieux qu'elle.
« Mademoiselle, qu'est-ce que cela ? » cria le grand-père de sa voix chevrotante. « Qu'est-ce que ces cérémonies ? On en était à tu et à toi quand on s'est quitté, et je veux qu'on reste sur ce pied, entendez-vous ? Ma parole, il n'y a plus d'enfants. Autrefois, on était les plus grands amis du monde, c'était Zoé par-ci, Samuel par-là.
« Jamais, grand-père !» fit Zoé en se redressant, et rouge jusque sous les tresses qui encadraient ses joues. En même temps, elle jetait à Samuel un regard indigné, comme s'il eût été complice de cette allégation. « Mademoiselle Zoé a toujours su garder sa place, » dit-il très grave et se redressant à son tour. Elle tutoyait ce grand garçon, il avait déjà 16 ans quand son père avait pris la ferme et qu'ils étaient arrivés un beau matin avec deux grands chars pleins de meubles rustiques, suivis d'une symphonie de sonnailles, de beuglements et de claquements de fouet, pour remplacer ce vieil ivrogne de Dubois qui avait bu toutes ses vaches et n'attendait que ses 60 ans révolus pour entrer à l'hospice. Voyant que le nouveau fermier avait des enfants, Mademoiselle Sélanie avait dit à Zoé « Sois aimable, mais ne te familiarise pas. » Elle avait rapporté ces idées-là du Brandebourg. Zoé ne s'était pas familiarisée, non par hauteur mais par sauvagerie, et parce qu'elle se sentait dépaysée au milieu de vrais enfants. D'ailleurs, elle allait à l'école cette année-là et ses déceptions en amitié l'absorbaient entièrement. Samuel était parti 6 mois après pour le pays de Gex, il n'aurait pas même eu le temps de devenir grands amis comme le prétendait le grand-père. Zoé s'était réfugiée près du cousin Clovis, son défenseur ordinaire. Appuyée sur son épaule, elle baissait les yeux, mais sa poitrine était encore tout agitée d'une indignation tumultueuse. « Tu as joliment grandi, Samuel, » lui dit le bon cousin pour faire diversion. « La mauvaise herbe pousse assez, » fit le grand-père. Il était mécontent. Après Clovis, qui prétendait que la petite était devenue subitement une jeune personne, voilà ce garçon qui faisait à son tour des embarras et la petite elle-même qui prenait des airs. « Zoé, » dit-il impérieusement, « tu me tutoieras ce garçon-là et il en fera autant avec toi. Je veux qu'on soit simple, qu'on soit naturel. Allons, commencez. » Ils se regardèrent et devinrent très rouges. Les sourcils droits de Zoé se froncèrent et les yeux gris de Samuel lui rendirent immédiatement la monnaie de sa pièce. « Est-ce qu'on m'obéira ? » reprit le vieillard en s'excitant. Un peu de rouge montait à ses joues blêmes, il prenait sa voix aigre des mauvais jours. « Oh ! » fit Zoé, « je veux bien le tutoyer, moi, pour ce que nous aurons à nous dire. » « Zoé, Zoé !» fit le cousin Clovis avec reproche. Elle le regarda une seconde, puis tout à coup, elle mit les deux mains devant son visage et se sauva en courant.